Bah, tu peux peut-être dire où on en est. Bah, dire où on est, parce qu'on n'est pas parisien, c'est pas, je pense que c'est un point important, où on est aujourd'hui. Et...
Voilà, on a quitté Paris. On a quitté Paris en 2006, ouais. Presque. Enfin, pas tout à fait complètement en 2006, ça s'est fait lentement. Et c'était un peu ouais, donc le début aussi de la planète Labo. Donc on a quitté Paris pour aller en milieu rural. Voilà, dans le centre de la France. Parce qu'en fait, il y avait aussi tout ce travail de bureau d'études. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout le travail de cartographie qu'on faisait, cartographie des systèmes, etc., qui sont quand même assez déceptifs. Et qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait être plutôt dans une force d'expérimentation, de proposition. Et donc, le milieu rural nous semblait être l'endroit voilà, le plus à même de faire ça. Et donc, lentement, voilà, on a migré vers le centre de l'Allier, à la ferme de la Motte. Donc, c'est pas très loin de Moulins, donc c'est pas une région très, très, très... Enfin, c'est dans le bocage bourbonnais. Voilà.
En fait, quand on a commencé la planète laboratoire donc avec Ewen en 2006, c'est l'année donc, où on est parti de Paris. C'est aussi l'année où on a travaillé en fait, sur la question de l'État. Dans les cartographies, on avait travaillé sur les cartographies des réseaux de pouvoir au niveau international, mais aussi sur comment fonctionne l'État, notamment le rapport de l'État à l'agroalimentaire. Et en fait, c'est ça qui nous a amené à nous installer en milieu rural. Et quelque part, ce numéro est aussi en continuité en fait, de ces questionnements où en fait, il y a eu différentes enquêtes qui ont été poursuivies depuis 2006-2007 en milieu rural. Alors, ce numéro est un peu différent. Je pense que c'est important de dire quelques éléments sur la trajectoire de ce journal. On appelle ça plutôt un journal qu'une revue, qui est irrégulier, hein, puisque 6 numéros, ce n'est pas beaucoup. On faisait ça... selon les budgets dont on disposait. Et là, donc la première idée, l'idée fondatrice, parce qu'en fait, c'était en fait de poser la question de ce passage de la planète usine à la planète laboratoire. C'est-à-dire, grosso modo, tous les enjeux qu'on voit sur l'extractivisme aujourd'hui, c'est la poursuite de la planète usine. Mais en fait, on posait donc une date arbitraire, je pense qu'elle n'y est plus dans le dernier numéro, ouais. Qui était 1945, date, on disait donc que c'était la date de naissance, donc en 2006, hein, de la planète laboratoire, avec le fait de considérer que les bombes atomiques étaient les premières expérimentations échelle 1 qui étaient destinées en fait à expérimenter en fait des nouveaux dispositifs qui affectaient en fait la planète. Donc et finalement les premiers numéros, les 4 premiers numéros ont été des explorations de ce qui s'est passé en fait de ces explorations, ces expérimentations, cette situation de laboratoire de la planète qui s'est produit en fait depuis 45. Alors après, justement, le numéro là revisite un peu cette date, comment dire, un peu discutable aussi en fait de 1945 comme date de naissance de la planète laboratoire et revient en fait sur des arrière-plans plus profonds qui sont ceux qui ont été évoqués par différents auteurs, qui est la question de la plantation. Hein, qu'on pourrait dater peut-être du XIIIe ou XIVe siècle, où en fait il commence à y avoir autour du bassin méditerranéen en fait des plantations, c'est-à-dire où on passe en fait à des organisations sociales souvent de colonisation en fait qui est souvent basée sur l'esclavage et où il y a en fait où c'est dissocié en fait d'une organisation sociale, où ça devient des systèmes de production de grande échelle qui sont destinés à l'exportation, c'est-à-dire qui ne sont pas liés en fait à une consommation sur place. Donc ça, on pourrait dire que la plantation, il y en a, ben c'était Haraway ou d'autres, hein, pose aussi dans des textes, je pense, de 2015, le fait qu'on peut considérer que la planète laboratoire, bah, c'est déjà là avec la plantation. Mmh. Ça émerge en fait au XIIIe, XIVe siècle, parce que ça va affecter en fait les climats, etc. Quoi. Hein. Donc ça, c'est pour donner un peu le contexte de naissance. Donc il y a eu ces quatre numéros, premier numéro, qui était irrégulier, et où il y en avait, voilà, qu'on traitait, il y avait des questions sur la géo-ingénierie, sur les réseaux, il y avait beaucoup sur les... Parce que c'était souvent couplé, en fait, où il y avait, pas souvent, mais ça a été couplé, en fait, entre le journal et la formation d'un collectif. C'est-à-dire, donc, par exemple, il y a eu, en fait, un journal qui tournait essentiellement sur les champs électromagnétiques, et sur les enjeux des dispositifs électromagnétiques au niveau planétaire, où il y a tous ces réseaux d'antennes, de différents types d'antennes qu'il y a à différents endroits de la planète. Et puis la question des antennes et aussi la communication par satellite. Donc ça avait donné lieu à un numéro. Mais parallèlement, il y avait eu donc, la formation d'un collectif qui s'appelait le Spectral Investigation Collective. Donc ça, c'était en 2007, c'était au début. Hein, et où, en fait, c'était plutôt de l'investigation spectrale, c'était de l'écoute du spectre, en fait, hein, et de l'expérimentation. Il y a aussi la dimension, je dirais, plutôt spéculative ou imaginaire associée au spectre électromagnétique. Mmh. Et finalement, ce couplage entre, on pourrait dire, l'enquête sous la forme d'un journal qui permettait, en fait, d'associer différents auteurs et de problématiser en fait le monde dans lequel on est et qui reste finalement assez incompréhensible en fait dans sa dynamique de formation. Donc il y avait à la fois cette partie d'enquête avec un réseau d'auteurs qui s'est modifié, qui s'est reconfiguré avec le temps, et puis donc un collectif plutôt soit d'action, soit d'expérimentation, soit de performance. Donc il y a eu donc le Spectral Investigation Collective, et puis en 2015, donc pour le numéro 5, donc, qui a été une autre perspective, parce qu'on pourrait dire qu'il y a eu une première période qui était vraiment sur, finalement, ce laboratoire c'est quoi. Donc il y a eu un numéro sur l'informatique, il y a eu un numéro qui était plutôt sur tout ce qui est guerre psychique, chimique, psychochimique, donc avec la question des guerres de l'opium, quoi, bon, avec et puis donc ces questions bombes atomiques et géo-ingénierie. Et dans le numéro 5, où tout ça se trouve en ligne en fait sur le site de la planète laboratoire, il y avait un récit en fait qui commençait à apparaître, qui était donc ça tournait autour du capitalisme alien. Donc autant en fait le premier numéro était dans la continuité de Günther Anders qui parle de est-ce qu'on travaille à notre propre obsolescence. Mm-hmm. Donc c'était vraiment sur la question de finalement en tant qu'humain qu'est-ce qu'on est en fait hein, dans ces dispositifs techniques. Est-ce qu'on rentre en fait dans une époque radicalement nouvelle où en fait notre statut en tant qu'humain devient problématique. Donc c'est là où ça a mené à différentes enquêtes. Et après, effectivement, dans le numéro 5, le capitalisme alien, c'était plus le fait de dire est-ce que c'est nous les aliens, on est là, en fait, il y a des transformations radicales, en fait, des milieux. Est-ce que c'est... l'irruption, l'émergence d'objets techniques radicalement nouveaux, qui sont comme il y avait un article sur la xénobiologie, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas dans la nature, si on peut dire, hein, donc qui sont bien des émergences de choses qui n'existent pas. Et donc, ils posaient cette question, en fait, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ces objets qui nous dépassent et qui semblent être, avec un capitalisme qui semble se développer dans le cosmos, devenir cosmique. Et dans le... Alors là, il y a eu en fait un autre collectif qui s'est formé, lié en fait à ces questions sur le capitalisme alien, qui a été le collectif qui s'appelait Alien in Green. Donc là aussi, il y a eu différentes personnes qui ont participé selon les contextes. Il y a eu en fait tout un temps d'exploration. Ça tournait en fait sur qu'est-ce que c'est que vivre dans un monde toxique. Et ça a tourné finalement sur la question des perturbateurs endocriniens. Donc ça a donné lieu à une sorte de théâtre laboratoire. Donc c'était typiquement en fait comment on est affecté. Donc c'était lié à l'alimentation, hein, comment on est affecté finalement par l'alimentation qui affecte nos modes de subjectivation. Donc c'était donc là il y a eu un collectif donc qui a duré plusieurs années où il y a eu donc un certain nombre de performances qui ont été faites et qui sont nées en fait ça a été une forme qui a été issue de ce qui a été développé dans le numéro 5 de la planète laboratoire, le capitalisme alien. Donc Alien in Green étant le pendant des Men in Black, en fait, c'était ça l'idée. C'est-à-dire que si on peut considérer que les Men in Black sont les agents du capitalisme cosmique, là c'était le fait de voir en fait quel était le pendant. Est-ce qu'on pouvait développer des modes de subjectivation qui allaient dans d'autres directions que ceux des Men in Black, quoi. Alors après, donc ça 2015, c'est vrai que 2015, c'est vraiment la période où on voit apparaître tous les récits de l'effondrement. C'est là où... Effectivement, il y avait la question de la plantation qui est arrivée. Entre-temps, il y a eu tout cet épisode Covid. Ça en est venu, en fait, à... Et plutôt que d'aborder, en fait, la question du grand laboratoire, du laboratoire qui nous écrase et dans lequel, finalement, on n'a aucune prise, qui est en fait une sorte de macro-objet, de macro-système technique ou d'imbrication, d'interrelation de macro-système technique, plutôt que d'essayer de poser la question du macro, c'était le fait de dire qu'en fait, et finalement, quand on regarde l'histoire de la plantation, si on considère que la plantation est déjà un laboratoire, c'est qu'en fait, il y a eu aussi de l'expérimentation depuis le sol, on pourrait dire, des expérimentations micro-multiples, hétérogènes, qui sont déployées, en fait, partout. Et ça, c'est possible de le documenter. Et qui, finalement, ont aussi expérimenté, finalement, comment ces cultures qui ont été, quelquefois... violemment écrasé en fait par les régimes de plantation et de colonisation, en fait il y a des formes, des cultures qui se sont réinventées, qui ont poursuivi en fait des formes d'agriculture paysanne et de culture paysanne qui ne voulaient pas en fait rentrer dans le discours moderniste qui consiste à dire l'avenir est urbain et les paysans sont des résidus obsolètes, mais bien qui, en fait, écrivait une certaine version de la modernité, mais d'une modernité qui est non urbaine. Donc, en fait, le numéro sur ce sixième numéro, finalement, s'inscrit dans cette question-là. C'est à la fois une exploration de ce que c'est que la plantation, mais c'est aussi, finalement, une investigation sur qu'est-ce que serait qu'un ordre public, qu'une définition de la modernité, qu'une définition de l'art aussi, qui serait en dehors de quelques figures clés en fait de ce que c'est que la modernité, la planète laboratoire de la modernité, c'est qui sont en dehors de l'État, donc ils définissent des ordres publics hors de l'État ou autrement que l'État, qui définissent aussi des régimes de territoire et de production qui sont différents de ceux du capitalisme. Et qui ont inventé en fait énormément de formes tout autour de la planète, on peut en recenser en fait, et qui ont, je dirais, une sorte de forme de contre-histoire par rapport à cette histoire qui est devenue finalement l'histoire imposée de la planète depuis la Renaissance, qui est le déploiement des États puis le déploiement du capitalisme. Voilà, ça c'est pour donner un peu le contexte. Maintenant, on peut peut-être regarder le numéro, ou quoi, dire quelques éléments sur le numéro.
Donc, oui. Comment il est composé ?
Ah ouais, je vais peut-être prendre un numéro. Oula !
Oula ! Le truc.
Ah, j'avais oublié. Donc, c'est un numéro composé en deux parties. Donc, il y a... En fait, il y a deux journaux l'un dans l'autre. Ça, c'est une intention, c'est-à-dire justement, c'est de ne pas avoir seulement une vision macro, mais d'avoir une vision située. Donc, il y a une version, quoi, un journal, Planète Laboratoire, ici, celui-là. Qui est plus sur laboratoire pour des futurs habitables, qui part en fait du récit urbain, voilà, Nations Unies, 2050, il n'y aura plus que des populations dans les villes, le reste sont des résidus insignifiants, donc c'est sortir de ce récit-là, et de considérer en fait que, quoi qu'on en dise, il y a encore des milliards, je pense que c'est entre 2 et 3 milliards de personnes qui sont en dehors des villes et qui ont des organisations, des modes de communication, des cultures, etc., qui ne sont pas urbaines. Qui ne sont pas urbaines et qui développent en fait d'autres manières d'être aujourd'hui et de construire en fait des mondes humains et des mondes avec d'autres espèces. Donc en fait, là, c'était le fait de considérer qu'est-ce que c'est que cette actualité et de prendre cette actualité au sérieux et de considérer que ça fait aussi le monde, qu'il n'y a pas seulement les Nations Unies ou les grands États, etc., qui font le monde, mais qu'il y a bien, en fait, une pluralité avec des tensions. Hein. Donc, il y avait cette vision plutôt macro qui traite essentiellement, en fait, de la plantation. Voilà, donc, planète plantation. Paysans planétaires qui célèbrent, en fait, le 500e anniversaire des révolutions paysannes. Donc, c'est bien sûr toute la question des enclosures, c'est-à-dire de la destruction des communs, tout ça est la même histoire, en fait. Hein, mais c'est une histoire qui est toujours en cours. En fait, l'erreur serait de considérer que parce qu'une lutte aurait lieu depuis 500 ans, elle serait terminée, elle peut durer encore 1000 ans. C'est pas du tout la question, en fait. Hein, c'est qu'il faut vraiment voir les choses dans des temps longs et qu'en fait, les choses ne s'arrêtent pas. Voilà. Et je pense que même, c'est important, je pense, d'avoir des formes de métaphysique qui ne s'arrêtent pas avec la mort. Je pense qu'il faut voir loin, en fait, parce que vu, en fait, les réalités avec lesquelles on est en prise, je pense que c'est très important de se donner des profondeurs temporelles importantes. Voilà, donc ça, c'est le contexte plutôt large. Voilà, donc il y a l'article d'Ewen sur le bœuf longhorn, la colonisation espagnole. Les biotechnologies de conquête, l'entretien d'Amitav Ghosh, qui est donc la malédiction de la muscade, hein, qui est vraiment sur les donc, guerres biopolitiques, terraformation et extermination. Donc, au milieu, on a fait une carte en fait, qui pose en fait une sorte de tension entre Terre et globe, avec une sorte de zone intermédiaire. Donc avec des manières de faire le monde qui sont distinctes, hein. On pourra le retracer à travers l'histoire du capitalisme des États, la genèse de la comptabilité d'une part, un certain régime des techniques qui apparaît, de mécanisation, hein, donc la question des États, voilà. Et puis d'autre part, effectivement, donc qui pose en fait, donc c'est le régime de la plantation, hein, donc qui pose qui va couper en fait l'humain en fait des espèces dont il dépend, hein, donc il y a vraiment c'est la question du naturalisme, c'est d'ailleurs un des points qui a été important dans la planète laboratoire dès le départ, c'était on avait été très frappé en fait par le texte de Philippe Descola sur par de la nature et culture, sur le fait qu'il y a plusieurs ontologies, qu'il n'y a pas seulement celle du naturalisme, mais qu'il y a les autres, que ces autres-là ne sont pas forcément lointaines, hein, mais qu'elles sont aussi ici, et qu'il faut bien partir en fait d'une pluralité d'ontologie, c'est-à-dire d'une pluralité d'une manière de composer la réalité, sans considérer que il y aurait une ontologie qui l'emporterait sur les autres parce qu'elle serait plus vraie, mais bien en fait de maintenir en fait cette pluralité et ces tensions. Voilà. Donc ça a été un point qui a été très important depuis le départ en fait de la planète laboratoire. Donc c'est quelque chose qui fait résurgence ici. Hein. De toute façon, on voit bien qu'il y a eu en fait une continuité en fait entre le déploiement du naturalisme et puis en fait son intégration dans sa mise au travail. Mais il y a eu aussi finalement au XIXe siècle, ça c'est l'autre article d'Ewen sur la symbiose, puis après il reprend en fait les éléments là de Geddes, là, de Patrick Geddes, le sociologue écossais. Donc c'est le contexte de la fin du 19e, l'idée de symbiose qui apparaît, le rapport entre symbiose et solidarité, donc l'idée en fait qu'il puisse y avoir un autre régime biopolitique que celui finalement dont Foucault en fait a parlé. Hein. Bonsoir. Voilà, après, je ne sais pas si... je continue un peu la présentation.
L'Assemblée des sols, là.
Oui, alors effectivement, l'autre numéro, c'est... Donc ça part plutôt de localité, de dire que en fait, tout point... Tout lieu en fait est un lieu possible d'émergence d'expérience qui différencie qui sort du régime de l'universel et dans lequel en fait il peut y avoir des manières de cohabiter en fait avec le vivant et qui reprend notamment ou qui recroise en fait ce qui s'exerce dans l'agriculture paysanne. Donc une des questions qui nous intéressait ici, c'était si autant dans la modernité, il y a eu l'art qui est devenu urbain, ce qui n'était pas le cas en fait, hein, même avant la Renaissance en fait, hein, puisque les villes, quand on prend les cartes du XIIIe siècle, les cartes européennes du XIIIe siècle, eh ben, les plus grosses villes font 80 000 habitants, même 60 000. Paris doit faire 80 000, 60 000. C'est des très petites villes. C'est tout petit. Ça veut dire que les populations sont partout. Mmh. Et donc, en fait, c'est tout à fait une autre organisation de l'existence, ce qui veut dire aussi que les arts sont partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des régimes de concentration, de concentration et de monopole. Parce que finalement, c'est des régimes de monopole hein, qui apparaissent, qui vont construire des récits comme quoi... Des choses se passent dans les villes, c'est dans les villes que se passe la culture, et qu'il y a finalement un découplage avec les ruralités qui sont réactionnaires, hein, c'est un discours qui est toujours présent, les ruralités qui sont réactionnaires et les villes qui sont progressistes, que les villes sont dans le futur et les campagnes sont dans le passé. Voilà, tout cette structuration de catégories binaires et opposées qui sont encore en fait en partie le régime dans lequel on est. Donc nous, un des points qui nous intéressait, c'était notamment de sortir de ce régime catégoriel, de requalifier ces catégories, et en fait, effectivement, en considérant que depuis, finalement, la jeunesse de ces catégories, la jeunesse de la modernité, il y a bien eu plusieurs versions de la modernité, ce qu'on appelle les modernités multiples, hein, qui avancent en parallèle et qui sont, en fait, en conflit, c'est-à-dire qui sont pas forcément, qui ne dépendent pas du même récit. Voilà, et qu'en fait, on pouvait c'était une manière, avec ces numéros, de contribuer à reconstruire en fait ces histoires-là d'autres philomes de modernité qui sont passés avec la question paysanne et qui ont qualifié les arts d'autres façons. Oui. Ça, c'est l'article que tu as fait sur la question des... reconcevoir les arts et les enseignements au XXIe siècle, page 17, avec ce cercle des arts, hein, c'était de dire que par rapport aux catégories kantiennes, Et quand on considère même ce qui se passait dans l'encyclopédie de Diderot, ben, qu'en fait, il y avait tout à fait une autre façon de considérer les arts, qu'il y avait en fait une présence immanente en fait, de tous les arts aux formes de vie, et qu'en fait, c'est des choses qui sont toujours présentes en fait, quand on est en contexte rural, où en fait, le fait d'avoir prise avec les choses et d'être en capacité d'agir dessus, du fait de rapports d'échelle notamment, eh bien, il peut y avoir des arts qui se situent partout et on peut vraiment relier en fait la question des arts à des formes de vie. Donc en fait, l'enjeu là, ça a donné lieu aussi à des dialogues ou des échanges plutôt en contexte d'écoles d'art qui étaient de dire ben, finalement. Est-ce qu'il ne faut pas requalifier les écoles d'art, donc requalifier les écoles d'art aussi dans les enjeux dans lesquels on est aujourd'hui, au XXIe siècle, en intégrant en fait il y a la question du vivant, mais aussi la question agricole. Voilà, et que dans ce numéro-là, donc c'est pour ça qu'on a invité différents artistes, groupes d'artistes qui ont travaillé là-dessus. Donc il y a Marie Preston qui travaille sur le levain. Il y a Éléonore Elliot, Terre et délivrance, avec le cercle d'art des travailleurs de plantation congolaises, place plus au Congo. Il y a Carmini, avec lequel on tisse des liens, qui est donc cette ferme en Bretagne qui a été créée par des artistes qui font en fait aussi de la traction animale et du maraîchage. Voilà, et puis il y en a différentes autres, Régénérative Energy Community, c'est-à-dire. Pedro Solers en Colombie. Voilà, en fait, c'est que des expériences qui ont été en fait développées. Vivek Vilasini dans le sud de l'Inde. Voilà, Sarjapura Curie. Donc, en fait, il y a eu en fait là aussi, en fait, il y a eu donc ce numéro-là. Et en même temps, il y a eu donc la formation d'un réseau, d'un collectif qui s'est formé d'abord en Inde, où il y a eu donc Ewen Chardonnay et Maya Minder qui ont été invités à intervenir dans le cadre d'une biennale en Inde, et où il y a eu la formation d'une assemblée des sols qui était en fait une sorte de préfiguration. Ça s'appelait Assemblée des sols au singulier. Maintenant, c'est plutôt devenu les Assemblées des sols au pluriel, avec cette idée de où il y avait plusieurs enjeux. Il y avait mais il y avait donc effectivement, c'était il y avait un enjeu qui était lié à la question des arts.
Oui, des arts et de la terre.
Et de la terre, oui.
Oui, sortir des écoles.
De l'agriculture.
Et... Oui, parce qu'en fait, toutes ces expériences-là, dans ce cahier, partent quand même d'expériences artistiques qui se confrontent, en fait, qui sortent de l'espace artistique conventionnel, quoi.
Oui, qu'on fait des choix, en fait.
Qu'on fait des choix,
fait des choix de se déplacer. Alors, il y a deux aspects. Il y a artistique, puis l'autre aspect qui nous semble tout aussi important, c'était la question des organisations de migrants en agriculture, avec le fait en fait de aussi essayer de créer un pont en fait entre les enjeux d'installation de migrants en agriculture en Europe, hein, pas seulement en France. Donc il y a un article dans le contexte français avec une association qui est dans le contexte italien. Voilà, donc c'était en fait, on pourrait dire, de relier question des arts, de l'agriculture et des migrations, quoi, qui sont
voilà. En fait, le migrant, il est déplacé. L'artiste, il n'est pas forcément déplacé. Et là, c'est des artistes qui se sont déplacés, quoi, je trouve, aussi.
Ouais.
Qui ont quitté les centres.
Voilà, c'est un peu une introduction. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être dit plus là-dessus. Non, je pense que ça vaut comme première introduction. Maintenant, je pense qu'on peut échanger. Je ne sais pas s'ils avaient eu le temps de lire un peu quelque chose dedans.
Non, je ne pense pas.
Oui, d'accord.
Je ne pense pas parce que...
Eh Ben, en fait, je pensais que ça serait possible peut-être de lire, ça pourrait être intéressant de lire, parce que ce qu'on a mis, donc effectivement pour compléter, dans la planète laboratoire, dans celui-là, dans ce numéro-là, ah oui, parce qu'il y a autre chose, ouais. C'est qu'en fait, il y a eu donc un premier numéro qui a été fait en anglais et qui a été diffusé en Suisse, en Allemagne, un peu en France, en Angleterre. Donc il y a donc ce numéro français qui a été avec l'idée de le diffuser donc au village de l'eau à Mel cet été. On l'a diffusé dans ce contexte-là. Mmh. Puis après, voilà, il y a encore des exemplaires, ça s'écoule à travers différents réseaux, dont ici en fait. Hein, et voilà, donc il y a des questions. Donc il y a eu cette assemblée des sols en Inde. Il y a des questions qu'il y ait d'autres assemblées des sols. Alors c'est tout récent, hein, l'Assemblée des sols en Inde, c'était il y a un an. Mm. Donc là, il est question, donc Pedro Soler, lui, il est en Colombie. Donc il est question qu'il y ait quelque chose qui se passe en Colombie. Il y a des discussions avec l'Allemagne. Donc en France, on va en parler à Bourges, plus donc avec la question de poser en fait, des enjeux locaux, avec le fait de coupler, on pourrait dire, des enjeux artistiques, culturels, des enjeux en fait, qui peuvent être... plutôt politique ou agricole dans des territoires donnés. C'est des manières en fait de reformer en fait des sortes de coalitions de territoires. Mmh.
Et qu'est-ce qui se passe par exemple sur le concept d'assemblée des sols, c'est quoi le concept, c'est quoi l'idée?
Alors.
Je sais pas ce qu'on a pas lu effectivement.
Oui, tout à fait. Oui. Donc je vais le lire. Donc en fait, on a réécrit ce texte-là, voilà.
Oui, qui est un peu une sorte d'appel même.
Alors, je vais le lire.
Appel hein, comme ça, à en faire d'autres.
L'érosion des sols est une menace aussi importante que le réchauffement climatique. En raison de l'érosion des sols, alors que les agences internationales suggèrent que nous devons augmenter la production alimentaire, certains scientifiques s'attendent à une nouvelle baisse de la productivité agricole d'environ 30% dans les décennies à venir. 80% des terres sont touchées par une érosion qualifiée de modéré à sévère. Une assemblée des sols, alors pourquoi faut-il organiser des assemblées des sols? Une assemblée des sols est un terroir, une assemblée qui reconnaît que le sol est un facteur déterminant de l'originalité et de la qualité de ce qu'elle fait, et inversement, cette originalité est définie à partir d'une communauté humaine qui construit au cours de son histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques fondés sur un système d'interaction entre le milieu naturel et les facteurs humains. Une assemblée des sols n'est donc pas qu'un sol, substrat qualifiant les produits, mais également une communauté associée qui la travaille, en révèle l'originalité, lui confère sa typicité. C'est un artefact, lent produit d'un effort mené pendant des siècles, marquant le travail collectif de nombreuses espèces campagnes. Ça apparaît... Je crois que c'est cité plus loin, en fait, que le temps pour faire la terre arable, pour faire un centimètre de terre arable, ça prend, je ne sais plus combien, un siècle, voire plus. Donc, en fait, c'est des... on ne se rend pas compte, notamment en contexte urbain, en fait, de nos dépendances, en fait, à des couches très, très fines. Hein. C'est ce dont parle très bien Bruno Latour. Hein, c'est que, en fait, on dépend, en fait, de zones très, très fines, en fait, du vivant. C'est un artefact, voilà. Hein. L'en produit d'un effort mené pendant des siècles, marquant le travail collectif de nombreuses espèces campagnes. Tous les organismes vivants en surface dépendent, en fin de compte, de la biodiversité du sol pour leur alimentation et leur habitat. La santé humaine et les économies nationales sont largement basées sur les bénéfices tirés du sol. C'est une citation. Les humains tirent 99,7% de leur alimentation des terres cultivées. Les plantes, les animaux et les microbes vivant dans des sols intacts s'engagent dans des processus vivants qui régulent de nombreux cycles alimentaires. Alors ensuite, une assemblée des sols comment? Donc ça c'est pourquoi. Ensuite, comment? Une assemblée des sols est un processus d'assemblage de différents collectifs, réseaux, institutions qui partagent leurs histoires, leurs idées, savoir-faire et capacités organisationnelles, pédagogiques, agricoles, militantes, artistiques, scientifiques, autour des sols vivants et de la régénération des sols abîmés ou détruits. Elle agence des démarches considérées parfois comme incompatibles à la jonction de l'art, du design, de la recherche et des pratiques, notamment paysannes, croisant des institutions, des laboratoires de recherche, des réseaux de praticiens autonomes et des territoires locaux. Il y a bien le lien entre territoires. Ce n'est pas juste en fait, de la recherche qui descend, en fait, mais c'est bien en fait, lié à, à une approche de croisement en fait, entre le recherche, praticien, territoire. Quoi. C'est vraiment penser les choses ensemble. Soucieuse de ne, autre point très important, soucieuse de ne pas subordonner les processus lents ou peu mobiles, faiblement connectés ou locaux. Alors ça, nous, on le voit bien. On est en milieu rural, bon, ben, c'est lent. Enfin, c'est lent d'un certain point de vue, hein, parce que c'est... Mais voilà, donc c'est les processus lents. C'est vrai que c'est des choses qui demandent... Nous, ça fait 15 ans qu'on y est, un peu plus. Et ben, transformer, en fait, ces contextes, c'est des processus très lents, en fait, et qui demandent, en fait, des engagements vraiment à long terme pour opérer des transformations qui sont profondes, qui sont aussi peut-être plus profondes, en fait, que l'expérience qu'on avait en milieu urbain avant... En fait, c'est difficile de tenir en fait, des transformations, ce qu'on peut faire en, fait, en contexte rural, où en fait, y a vraiment des manières d'instaurer des transformations profondes en fait, des milieux vivants et humains. Soucieuse de ne pas subordonner les processus lents ou peu mobiles, faiblement connectés ou locaux, aux logiques institutionnelles, entrepreneuriales ou métropolitaines, rapides, mobiles et fortement connectées, l'Assemblée des sols s'organise par collège et par assemblée qui respecte la diversité des niveaux d'action institutionnels, locales, réseaux, etc. et contribue à les assembler de façon à chaque fois spécifique et contextuelle dans le respect de leur diversité. Les assemblées des sols ont pour but de se répliquer, d'instaurer dans différentes régions et localités des assemblées d'initiatives pédagogiques, agricoles, militantes, scientifiques et artistiques. Les assemblées des sols, dans leur ensemble, sont organisées de bas en haut, pour le moment d'une façon non formelle, inspirée par la manière de structurer la mise en réseau internationale dans des organisations comme Via Campesina, qui est donc l'organisation paysanne internationale. Ainsi, si certains groupes régionaux ou locaux veulent s'approprier le format pour organiser une assemblée des sols internationale ou régionale, c'est possible. Il suffit de respecter quelques principes de base énoncés ci-dessous et surtout de rester en dialogue pour opérer des croisements. Donc les principes, c'est mobiliser le pouvoir de l'art et du design pour créer une pédagogie vivante qui touche les mains, les cœurs et les têtes des personnes, semer un réseau mondial de collectifs créatifs et d'artistes, activistes, designers, agriculteurs, chefs cuisiniers, scientifiques, techniciens, qui sont engagés de manière critique dans la conservation des sols vivants, de la biodiversité et des paysages, mobiliser, semer, informer sur les méthodes d'enseignement, formelles et non formelles, de l'éco-compétence critique, afin que les nouvelles générations puissent contribuer à la régénération collective des paysages dégradés, et présenter des laboratoires vivants, des projets innovants et des communautés travaillant à l'interface de l'agroécologie, des arts et de la science citoyenne. Voilà, donc c'est une esquisse, hein, avec toutes les critiques qu'il peut y avoir. L'idée, c'est vraiment de reformer, en fait, et c'est pour ça qu'on était en fait, au village de l'eau. C'est qu'en fait, ce qui se passe avec les soulèvements de la terre, quoi, il y a plein d'endroits en fait, où il y a des choses qui se passent. C'était aussi pour rencontrer en fait, tous ces différents réseaux. Voilà. Voilà.
Moi, j'ai bien lancé une question, en fait, mais très rapidement, parce que j'ai pas encore de questions, si j'ai ouvert la question sur les auditeurs, auditrices de la radio. Ça va venir aussi le temps que ça infuse un petit peu. La question que je voulais poser, c'est aussi la suivante. Il y a toute cette... justement, on parle des soulèvements, et en amont des soulèvements, en fait, il y a justement tout le temps des écoles de la Terre.
Bien sûr.
Où, justement, il y a eu beaucoup de mises en commun, en fait, à un moment... Déjà, il y a eu une volonté de mobiliser justement le savoir d'universitaire, comme ça, de leur dire, venez voir ce qui se passe en fait dans les territoires pour justement peut-être aussi comme ça un petit peu à la fois apporter des choses, mais aussi travailler sur le local. Donc il y a vraiment déjà cette idée un petit peu
de croisement,
de relocalisation, puis de retrouver des attaches en fait un petit peu. Évidemment, c'était irrigué par la pensée latourienne, même s'il y avait beaucoup de critiques, hein, ce n'était pas forcément l'alpha et l'oméga, mais justement, avec cette idée un petit peu aussi de remettre un peu de politique au centre justement de ces territoires qu'on avait été un petit peu dépossédés. Alors, je pense forcément au Parlement des données humaines, puis toutes ces différentes initiatives. Et moi, ce que je voulais savoir un petit peu, justement, parce que je sais que vous êtes allé plusieurs fois, en fait, dans ces. Plein de fois, vous avez aussi contribué avec justement les expériences qui se passent à la ferme de la Motte, vous êtes venu apporter, en fait. Je voulais voir un petit peu est-ce que justement c'est quelque chose qui se passait dans une continuité ou justement qui cherchait aussi peut-être à renouer avec un fer peut-être qui pouvait manquer à certains endroits. Enfin, ouais, ça m'intéressait un petit peu de voir le cheminement autour de ces croisements d'initiatives.
Mm-hmm. Bah, en fait, un des trucs qu'il y a eu à la ferme de la Motte qui était. Il y a plusieurs choses en fait. Puisque ferme de la Motte, c'est un territoire, en fait. Donc, il y a une école autogérée à côté, 220 élèves. Il y a différentes formes d'agriculture paysanne autour. Donc, différents positionnements, en fait, que ce soit en santé, en agriculture, etc. Et il y a eu une période d'enquête entre 2018 et 2021, qui s'est appelée Écologie Pirate. Donc, il y a un certain nombre d'entretiens qu'on trouve
en ligne,
sur le site Écologie Pirate. Et où, au cours de laquelle on a rencontré effectivement un certain nombre de. Il y a eu tout un ensemble de chercheurs, chercheuses, artistes, designers, en fait, qui sont passés et qui ont eu en fait un rôle très important. Parce qu'en fait, c'est vachement important que les contextes ruraux, dans la diagonale du vide, en fait, l'arrivée de l'enquête est quelque chose de. S'il n'y a pas une vision descendante, quelque chose de très, très 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 productif, très important. Ça fait vraiment avancer en fait les situations. Et je crois que dans les écoles de la Terre qui sont passées donc à la Pommerie, alors dans un territoire qui est quand même un des territoires français exemplaires, hein, qui est
le plateau d'une vache,
qui est quand même historiquement en fait un. Il y en a quelques autres, hein, mais celui-là est vraiment exemplaire par la diversité des expériences, des initiatives qui s'y font depuis, après la guerre d'Espagne, si on peut dire. et ben, effectivement, c'est dans ce contexte-là, dans ce terreau fertile, en fait, qu'a pris naissance, finalement, une école de la Terre, se revendiquant, en fait, de ce terme d'école de la Terre qui vient des apatistes, en fait. Hein,
Ce week-end, vous êtes certainement au courant, il y avait les Amapiat, les 20 ans du réseau Amapiat de France, à la ferme de Combreux, qui est un formidable exemple. Le propriétaire a décidé, au moment de la succession, de partager sa terre de manière collective, en association avec Terre de Liens.
Okay.
D'accord.
C'est un petit câble sol, Terre de Liens et le réseau de France, que vous connaissez certainement. Et donc, il nous est rapporté au cours du samedi, parce que je suis allée uniquement samedi, que le principal problème majeur, c'est la pluralité des représentations au sein des chambres d'agriculture, qui est quand même à prendre en compte, et qui est au vote de la FNSEA, hein, clairement. Et justement aussi qu'il y avait vraiment un défaut d'accompagnement, ce que propose Terre de Liens à Biosol et Réseau à Ville de France pour faire justement que les projets soient sous forme de pépinière, en fait, qu'il y ait vraiment un réel accompagnement. Ce qui manque actuellement, c'est le défaut d'accompagnement. Et justement, après, par exemple, nous arracher, c'est le cas. On se dit, moi je suis indépendant, donc pas forcément envie de se syndiquer. Il nous insistait justement à sensibiliser nos différents producteurs en AMAP pour qu'absolument qu'ils se syndiquent à la Confédération paysanne pour faire changer les choses. Mais effectivement, il y a c'est ce problème qui est une mainmise de la FNSEA sur la SAFER et les chambres d'agriculture. La SAFER, c'est qu'en fait, on ne peut pas. Moi, je suis petite fille d'agriculteur et on a eu ça, ce problème-là, dans ma famille. À un moment donné, on ne peut pas louer ou vendre ses terres à n'importe qui. C'est la SAFER et les chambres d'agriculture qu'on a mainmise sur ces sujets-là. Et aussi, justement, c'est pour ça qu'il y a ce rachat des terres par Terre de Liens, et le financement coopératif, justement, pour privilégier cette agriculture paysanne.
Mais ça, on connaît très bien, parce qu'en fait...
Ça fait partie du laboratoire aussi d'expérimentation.
Ouais. C'est un des premiers trucs qu'on a fait, effectivement, qu'on était en allié, c'était de créer un fonds de dotation. On a réfléchi sur Terre de Liens. Finalement, on a créé un fonds de dotation en considérant qu'il fallait avoir des politiques foncières locales. Donc c'est un peu différent de Terre de Liens, qui est quand même essentiellement une foncière. La partie basée sur le don est quand même assez minoritaire. Après, c'est vrai que, quel que soit l'intérêt de Terre de Liens, il y a eu cette remarque faite par, dans le manifeste d'Atelier Paysan, qui est vraiment à lire, en fait. C'est un texte vraiment... je pense assez très important. Qui dit que finalement, tu parlais de donc l'anniversaire des 20 ans, que finalement, quand on fait une vision rétrospective sur les 20 ans passés, où il y a eu en fait une intention en fait de faire émerger en fait une autre conception de l'agriculture, anticipant déjà en fait le fait que l'agriculture est en train de basculer en fait vers une appropriation par les grandes et moyennes surfaces, et qu'en fait, dans ces 20 ans, finalement, si on fait le bilan aujourd'hui, et ben en fait, ça reste assez insignifiant. Même ce que fait Terre de Liens, malgré tout l'intérêt que ça a, ça reste insignifiant par rapport à le nombre de fermes qui partent à l'agrandissement. C'est quelque chose d'insignifiant. Donc c'est intéressant de voir que finalement, toute cette force qui s'est déployée dans l'agriculture paysanne, la Confédération paysanne, Solidarité paysanne, Atelier paysan, etc., qui en fait, pour l'instant, ça ne fait pas le poids. Et ça, on le sait, on a fait aussi des enquêtes de territoire, en fait, sur des contextes agricoles.
Ici, là, en Europe, ça ne fait pas le poids.
Mais en tout cas, dans le contexte
français.
Oui,
Mais ça... Non, ça existe quand même. Tout à l'heure, tu as dit l'inverse, qu'il y a plein d'expériences qui existent quand même, quoi.
Ça ne fait pas de poids, mais...
Oui, ça existe. Évidemment, ce n'est pas sur la même échelle.
Non, moi, ce que je disais, moi, je ne dis pas que c'est insignifiant. Ce que je disais, c'était que l'atelier paysan dit que c'est insignifiant. C'est ça que je disais. Et que pour moi, c'était un choc de lire ça. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment effectivement un mouvement mondial, en fait. Il reste effectivement...
Atelier paysan, vous voyez ce que c'est, un petit peu, Atelier paysan, à Paris, là? Non? C'est une sorte de réseau qui permet, qui aide en fait l'installation, qui aide en fait, qui travaille plutôt sur les outils, sur l'équipement. Et un petit peu comme un Fab Lab fabriquerait en autoproduction ils refont des vieux outils aussi pour une petite agriculture.
C'est l'outillage agricole en open source.
En open source, oui, c'est ça, oui. Oui, parce que tout l'outillage agricole, en fait, maintenant, c'est très difficile de retrouver des outils pour faire à l'échelle humaine, quoi. Si on ne veut pas faire avec le tracteur, si on ne veut pas faire avec tout ça, c'est très difficile de trouver encore ces outils. À la vente, en tout cas, en France. Alors, souvent, ça vient des États-Unis. Et là, Atelier Paysan a permis, en open source, de refaire des plans libres, comme ça, pour reconstruire ses propres machines. Et ça a permis, comme ça, à plusieurs personnes de repratiquer une agriculture différente, proche des sols, et puis...
Mais il y a aussi la programmation Arduino. Hein.
Il y a aussi des choses comme ça. Ouais.
C'est pas homogène, en fait. Hein.
Non. C'est quand même du Fab Lab. C'est du open source.
Voilà, donc il peut y avoir de l'attraction animale. Et l'attraction animale a une vraie pertinence. Hein. Quoi qu'on en pense, il y a des thèses qui montrent l'échec de l'agriculture d'un point de vue énergétique avec la modernisation, l'échec de l'agriculture mécano-chimique, qui en fait a augmenté les rendements, mais est vraiment une catastrophe d'un point de vue énergétique. Ce que Marx avait déjà relevé avec Podolinski au XIXe siècle, il y a des thèses qui reprennent en fait ces données-là et qui montrent qu'en fait on peut comparer, et on est quand même dans ces enjeux énergétiques qui sont loin d'être réglés pour l'agriculture et que l'attraction animale a des vertus pour le futur, quoi.
Et à propos justement des sols, il y a une problématique et des fois ça se contre. Enfin, c'est un peu difficile de faire ce choix-là, mais entre la conservation des sols et l'agriculture biologique, des exemples de recherche ont été faits là-dessus, et que c'est très difficile de la fois d'avoir une conservation des sols et l'agriculture biologique. Des fois, ça. C'est pas forcément très évident à lier les deux, en fait.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est tellement compliqué. C'est que, en fait, l'agriculture biologique, c'est un peu sur le principe de la permaculture, alors que la conservation des sols, ça faut plutôt reposer la terre par moment. Mm-hmm. Et que c'est sous. Alors que l'agriculture biologique, il faut quand même qu'il y ait un rendement, etc. Alors que la conservation des sols, c'est plutôt sur du temps long. Alors que l'agriculture biologique, de manière plus immédiate, c'est plutôt sur le temps court ou moyen. Alors que la conservation des sols, c'est plutôt sur le temps long. Et parfois, ces deux problématiques, là, c'est un peu compliqué à mettre. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
En tout cas, un des enjeux qui se pose en France aujourd'hui, et ça c'est un des choses sur lesquelles on travaille en parallèle de Planète Laboratoire, mais c'est complètement lié, c'est ce que d'ailleurs tu as évoqué avant, c'est le lien entre la question foncière, il y a une vraie question foncière, c'est-à-dire que il y a un déficit d'ailleurs d'enquête sur l'évolution du foncier en France, hein, on parle beaucoup de land grabbing dans d'autres pays, mais en fait... Et ça serait vraiment nécessaire de faire une analyse du cadastre français, de voir comment il y a des concentrations et acquisitions massives de terres en France. Donc il y a vraiment un enjeu en fait d'acquisition de terres libres, si on peut dire, pour l'installation. Donc ça, s'il s'agissait de penser des dynamiques en fait liées même à des questions d'assemblée des sols, il y aurait donc bien la question foncière. Avec effectivement les problèmes posés par les SAFER. Ouais. Après, il y a des questions de formation, c'est-à-dire qu'il y a les lycées agricoles, en fait, il est bien question d'expérimentation en partant de la base, c'est que dans les lycées agricoles, il y a quand même un apprentissage de la modernisation, essentiellement, qui continue, en fait. Hein, et donc, il y a des problèmes de formation agricole et d'installation. C'est-à-dire pour des personnes qui sont... ce qu'on appelle les NIMA, c'est-à-dire les personnes non issues des milieux agricoles, y a un problème en fait d'arriver en fait et de créer en fait des formes d'agriculture nouvelles. Hein. C'est des débats auxquels on assiste en fait. Hein.
Moi, je voulais revenir sur l'objectif de votre. Alors, je ne sais pas si vous appelez un journal. Comment vous l'appelez concrètement?
C'est un journal, ça.
parce que bon, on est d'accord, enfin, je pense que là, vous prêchez un peu des convaincus. Le truc, c'est qu'on a vu ces dernières années, quand même, qu'il y a eu une sensibilisation de la population à ces problématiques, au vu de plusieurs phénomènes météorologiques, ou le Covid, ou des choses comme ça. Le bio avait vachement pris de l'ampleur. Et on voit qu'avec la crise économique, les gens se rétractent pour des moyens. Voilà. Et puis, il y a l'autre chose, c'est que tout le monde se revendique de l'écologie aujourd'hui. Mmh. Les partis de droite, les partis de gauche. On a l'impression qu'il n'y a plus. Voilà, et aujourd'hui, enfin, moi, j'ai cette impression, c'est que ça va même plus loin. Quoi. Par exemple. Enfin, les extrêmes, faut passer les écologiques pour des très graves terroristes, enfin, c'est dangereux, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fragilisé. Mm. Donc, votre journal, quand vous le diffusez comme ça auprès d'organes comme ici ou dans des lieux, comme je disais tout à l'heure, vous prêchez un peu des convaincus, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais comment reprendre un peu la main, si parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut attendre, quoi, qu'il y ait de la pluie H24, que les gens se retrouvent dans des... Enfin, on le voit aujourd'hui, je pense que les gens se réveillent, les situations, on le voit aux actus, quoi, tous ces problèmes Mais on voit aussi que, ben, comme tu disais, les puissances de l'argent, quoi, quelque part, hein, comme on les appelle, font que c'est très compliqué de, aujourd'hui, de faire entendre la petite musique, quoi, que tout ce qui est permaculture, c'est quand même quelque chose qui est en perte de vitesse, quoi. Enfin, moi, j'ai cette impression-là. Hein. Mmh. Et c'est compliqué de le financer, c'est compliqué. Mmh. Enfin, voilà. Alors, la question, c'est quel avenir? Comment vous voyez les choses? Et est-ce que votre journal, vous pensez vraiment qu'il a un impact pour changer dans cette direction? Enfin,
moi, je pense qu'il faut. Voilà, c'est très difficile si on est dans le discours global comme ça, généraliste, de sortir la tête de l'eau. Et je pense qu'il y a des petites. Voilà, il faut pas se laisser non plus abrutir par les médias, etc. Mais il me semble que la petite initiative locale a son rôle à jouer. Et je pense que c'est vraiment là aussi qu'il faut mettre son énergie, parce que ça me fait penser, quand il y avait ce regroupement, par hasard, ça s'est passé à la ferme de la Motte, autour de ce regroupement du levain, où il y avait Marie Laprestant qui a fait un compte-rendu de ça. Ce regroupement sur le levain, en fait, c'était un regroupement, c'est des gens, donc c'était à la fois des boulangers qui s'étaient regroupés comme ça, qui avaient fait un petit groupe de chercheurs qui ont une petite subvention, etc., pour se regrouper, pour faire laboratoire, quoi, ensemble. Donc, il y avait toute cette nouvelle génération de boulangers qui travaillent avec le levain. Je sais pas, dernièrement, j'étais dans Paris. Là, j'en vois plein, des boulangeries comme ça aussi à Paris. Voilà, il y avait ce type de personnes-là. Il y avait des gens qui travaillaient, qui refaisaient les semences aussi, sur la question des semences, la propriété des semences. Il y avait des chercheurs scientifiques. Il y avait même une femme assez âgée qui travaillait au Parlement européen sur ces questions-là, etc. Donc ça, c'était super intéressant. C'est des gens de la société civile, quoi, qui se regroupent, qui répondent ou qui créent... je ne sais pas s'ils ont créé eux-mêmes leur appel à projet. Enfin, ils ont en tout cas proposé ce projet à je ne sais pas quoi. Ils ont eu un petit financement. Ils venaient un peu de partout de la France. Ils se retrouvent comme ça plusieurs fois dans l'année pour faire presque école entre eux, quoi, pour échanger des pratiques et pour avancer, etc. Et ce qui m'avait frappé, moi, c'est cette chercheuse qui travaille au Parlement européen qui disait, bon, ben là, avant le Covid, il y avait une sorte d'ouverture. Et depuis le Covid, en fait, tout se referme et toutes les subventions vont à l'agriculture de précision, robotique, etc. Que donc là, maintenant... Ouais, c'est ça que tu dis. Et elle disait, par contre, il faut mettre toute son énergie sur les réseaux des semences paysannes, sur les... Et il y en a partout, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, elle parlait de plusieurs situations... Non, c'est pas abruti, enfin, mais c'est...
Je sais que, par exemple, en Inde, c'est quelque chose qui est très, très développé, par exemple.
Bah oui.
Vraiment, beaucoup plus que...
Que chez nous, ouais.
Et voilà, donc, je dis pas que c'est... Mais quand même, on voit une sorte de repli, et aussi une reprise, enfin, des idées politiques. Je veux dire, le FN dit qu'ils sont écolos.
Oui.
Bon...
Oui.
Donc, votre journal.
Qui sont décroissants.
Ouais. Votre journal, je veux dire, s'il s'adresse que. Enfin, s'il fait de l'entre-soi, c'est un peu. Voilà. Comment est-ce que.
Comment on peut toucher.
L'ouvrir? Est-ce que.
Ah, ben, bien sûr qu'on aimerait bien l'ouvrir.
Non, mais il faut peut-être parler d'exemples concrets. C'est-à-dire que là, en fonction, effectivement, des forces dont on dispose. Une des choses là sur lesquelles on travaille, et qui touche d'ailleurs les choses ici, c'est comment on requalifie les liens ville-campagne. Donc il a été question des AMAP, qui était une forme intéressante, qui était le fait de dire...
c'est l'association ville...
Oui, c'était une façon de requalifier les liens ville-campagne. Donc se pose aussi la question des... je pense qu'il y a 2 ans, la création d'un lycée agricole à Sevran. Bon, bah, je trouve qu'un lycée agricole à Sevran, c'est quelque chose d'intéressant. C'est comment, en fait, dans, Donc nous, le territoire dans lequel on est, le Bocage bourbonnais, c'est des territoires qui ont été créés par Paris au XVIIe siècle. Donc en fait, qui étaient des territoires d'élevage. En fait, le Bocage était un artefact, un dispositif qui était créé, qui a été créé sous Colbert, en fait, pour développer de l'élevage, quoi. Donc il y a ces paysages-là et même les questions d'élevage n'ont aucun, ne peuvent pas tenir sans repenser en fait des liens ville-campagne. Donc après, c'est comment on travaille ça. Donc effectivement, ça va. Donc, d'une part, ça va prendre du temps. D'autre part, il y aura, si on prend juste l'exemple du Bocage bourbonnais qu'on connaît, mais on pourrait prendre d'autres exemples, hein, puisqu'on a fait des trucs dans le Cantal, dans les Deux-Sèvres, etc. Hein, et à chaque fois, c'est des contextes spécifiques. Si on prend le contexte du bourbonnais, ce qui est sûr, en discutant avec les maires locaux, qui sont agriculteurs, hein, disent, bon, il y a une partie qui va être achetée par les GMS, par les grandes et moyennes surfaces. Et ça va se faire. Ça, de toute façon, ça va se faire. Donc, ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire ? Peut essayer de sauvegarder des terres un certain pourcentage dans les 50% d'éleveurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Mais c'est évident, tu ne peux pas faire face à ça. Il y a des parties qui vont aller en forêt, d'autres qui vont partir à l'agrandissement. Et c'est déjà en cours, en fait. C'est déjà en cours depuis longtemps, en fait. Donc, de toute façon, tu ne peux pas répondre à ça. Ce n'est pas seulement une question de... d'idées, il y a un vrai problème de savoir comment on met en fait comment on fait des actions de transformation. Et ce qui est compliqué, c'est quand il est question de GMS, c'est que ça va partir sur un certain type d'agriculture où les haies vont être détruites, donc vont être supprimées, donc ça sera clairement pas en agroforesterie, clairement. Mais je peux prendre d'autres départements, où il y a les mêmes questions qui se posent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour l'instant, on pourrait dire qu'il y a 15% d'agriculture qui sont sur d'autres types de marchés. Hein, voilà, c'est une vraie question. Même s'il y a des lois qui passent, il y a la loi Egalim, il y a plusieurs lois qui créent des milieux protecteurs pour développer à la fois d'autres types de santé, d'autres types d'alimentation et d'agriculture. Mais voilà, je pense que ça va prendre longtemps et qu'il y a un vrai problème de culture. Il y a un problème de culture. Cette culture-là n'existe pas.
Chez les agriculteurs aussi, du coup, ça crée d'autres... pour le coup, on se dit... je me suis dit, mais comment une entreprise comme ça va... du coup, quels vont devenir ces gens ? Et est-ce qu'on est voué à voir disparaître ces laiteries ou comment ils vont faire ? Est-ce qu'ils se retournent on voit bien qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont complètement dépendants de l'industrie. Complètement.
Bien sûr.
Peut-être tu peux donner l'exemple, au contraire, du lycée agricole de Normandie, là, qui est sorti de Lactalis.
Oui. Effectivement, il y a la différence entre la situation dans le Cantal, où tu as 85% qui est contrôlé par Sodial. Donc il y a quatre groupes qui contrôlent le lait en France, hein. Sodial, Lactalis, je ne sais plus quels sont les deux autres. C'est la même chose en fait dans les Deux-Sèvres. Donc en fait, la difficulté, c'était les sujets sur lesquels on a été avec un lycée agricole, hein, c'était le fait de dire, est-ce qu'on peut reconstruire des filières avec des laiteries, parce qu'en fait, les laiteries, c'est les coopératives.
C'est cette idée de coopérative.
Oui, oui.
Ouais, mais c'est comment tu reformes des filières,
il faut arriver à sortir du système.
Oui,
mais il y en a qui le font justement, il y en a qui arrivent.
Ouais. L'idée coopérative, c'est peut-être la plus simple, la plus évidente, et qui a l'air de fonctionner quand même pour certains dans certains domaines.
Oui, je pense.
Je voudrais juste vous soumettre une question, une critique, mais que je m'adresse à moi-même aussi dans mes actions, donc c'est pas du tout. Mais donc j'entends bien les initiatives qui viennent du terrain, ça fourmille de partout, c'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup. Vous parlez tous les deux mise en réseau, de laboratoire, de mélange avec les enseignants-chercheurs, les laboratoires scientifiques. Moi, je suis enseignant-chercheur en sociologie, donc je vois très bien à quoi ça fait référence. Et pour moi, il y a un gap entre ce discours de mise en réseau, d'initiative locale, et ce que moi, par ailleurs, je constate sur le terrain quand j'interviewe des petits agriculteurs en Bretagne, dans les Combrailles, un petit maraîcher dans les Combrailles, je connais des gens dans les Deux-Sèvres aussi. Quand je les interviewe, c'est pas du tout l'image que je vois remonter dans vos articles. Ce que je vois, c'est une extrême solitude, c'est-à-dire y compris des agriculteurs sur sol vivant, dans des toutes petites parcelles qui devraient vous intéresser, mais qui est... Donc il y a une atomisation, terrible, qui contredit un petit peu la vision que vous donnez de la mise en réseau, du pluridisciplinaire, de la rencontre, mais... Donc au village de l'eau, j'y étais pas là cet été, mais... Il y a des moments de rencontre qui sont pas des vraies rencontres, c'est-à-dire que c'est juste du côte à côte, en réalité. Et pour moi, là où il y a un moment, une conjonction, c'est sur la politique, c'est sur la prise du pouvoir, c'est sur la Confédération paysanne. C'est à un moment de faire passer ces mises en réseau, le faire passer au niveau politique, au niveau du programme politique, de la prise du pouvoir, des syndicats, des luttes. Et ça, c'est pas très présent dans ce que vous avez dit, ce côté programme politique, au fond.
En fait, là, ça avait une intention précise, qui était, en fait, de redignifier les enjeux agricoles dans les milieux culturels et artistiques. C'est destiné à ça, en fait.
Oui, non, mais donc...
Donc, c'est vraiment cette intention-là. Après, si tu prends plus généralement, donc on était, par exemple, dans les Deux-Sèvres, là, effectivement... par exemple, il y a les réseaux CIVAM, où là, il y a... si on prend le contexte des Deux-Sèvres, que je connais,
bien maintenant,
sur la question de l'élevage caprin, eh bien, il y a 85% qui sont sur l'élevage zéro pâturage, c'est-à-dire hors sol, et il y a 15% qui sont sur des... Voilà, sur de l'élevage caprin lait cru, donc circuit court, etc. Donc en fait, c'est ça la proportion. Et c'est pas seulement là. En fait, finalement, tu prends sur le lait, la question du Cantal, c'est à peu près les mêmes proportions. Donc en fait, quand les questions d'organisation, quand tu prends, tu dis, mais finalement, c'est tout petit, effectivement. Donc effectivement, ça fait pas... c'est pas massif. Mais c'est significatif, c'est-à-dire que ça crée des territoires et que il y a vraiment, et ça c'est des conflits qu'on avait avec les géographes, tu vas voir les géographes sur les Deux-Sèvres, un gars qui était dans l'association de la filière caprine des Deux-Sèvres, qui est un géographe, on avait ces discussions-là, il disait, lui il pensait aux 85%, et nous on était intéressés par la tension, la différenciation entre les 15% et les 85%, notamment sur les enjeux de santé. C'est-à-dire que si tu penses des territoires de santé pour les 15%, en circuit court, avec le lien entre les PAT, les plans alimentaires, les projets alimentaires territoriaux et les contrats locaux de santé, c'est une manière en fait, de penser des territoires qui ne sont évidemment pas ceux qui vont produire pour les marchés urbains. Et donc
c'est significatif, mais tu ne réponds pas à ma question du programme politique.
Du programme politique.
Tu veux dire qu'il faut infiltrer les campagnes, les programmes politiques des campagnes. Oui, mais ça c'est...
D'ailleurs, tu citais Marx. Marx s'est posé cette question très clairement.
C'est clair que là...
Et pas juste, des initiatives fourmillantes qui ne changent rien. Toi-même, tu as dit c'est insignifiant. Ça m'a choqué aussi. Parce qu'on peut se renvoyer cette critique d'insignifiance à... plein de domaines. Ce qui fait passer à autre chose que l'insignifiance, entre guillemets, c'est bien le programme politique.
Je pense que c'est d'abord de faire des territoires qui tiennent.
Ça passe par les politiques.
Non, c'est des questions de phase.
Par les politiques locales aussi.
C'est des questions de phase.
C'est
des questions de phase. Là, quand il a été question du plateau de 1000 vaches, On est en lien avec la Bretagne. Il y a des liens avec le Cantal. Y a, donc nous, on est sur le bocage bourbonnais. Pour l'instant, c'est très éclaté. C'est très, très éclaté.
C'est pour ça que là, il faut absolument que les petits agriculteurs, les petits paysans, moi j'aime bien ce terme de paysans, vraiment se syndiquent à la Confédération paysanne pour ceux qui ont des valeurs approchantes. C'est, pour moi, c'est ça le levier. Quoi.
Oui.
Parce que nous, avec le réseau Agmaplus de France, on a été voir les sénateurs et les députés, sur, en particulier sur la pluralité des institutions dont je parlais. Dans les chambres d'agriculture et modifier le fonctionnement de la SAFER, la production des terres. Mais c'est ça le nerf de la guerre, si j'ose dire.
Le nerf de la guerre, c'est plutôt qu'ils ne sont plus très nombreux. En fait, il n'y a plus de paysans. On va être seul, le nerf de la guerre. C'est, je veux dire, en proportion à ce que ça représente dans, aujourd'hui dans la population. C'est quoi? C'est qui les paysans? Ils sont combien?
C'est pour ça que la question culturelle est tout aussi importante que la question politique.
Pas que c'est aussi important, pardon.
Et qui est, mais c'est autrement.
Ni la dimension
c'est autrement difficile hein, de construire une nouvelle culture.
Pas du tout. Mmh. C'est pas incompatible avec la dimension politique.
Et tu as non, je ne dis pas que c'est incompatible, exemple, mais je pense que c'est vraiment difficile.
Paysanne, enfin, je sais pas, sur le plateau du Larzac. D'ailleurs, votre journal est un petit frère, Gardin Larzac, vous connaissez, je pense, le journal. Du coup, c'est vraiment, c'est, enfin, ils ont réussi là à faire quelque chose de qui se tient, mais malgré tout, je pense que même eux sont. Il y a peut-être aussi des agriculteurs qui râlent un peu parce que les normes écologiques sont complexes, parce que bon, ça rapporte peut-être moins, parce que ils ont peut-être pas aussi cette sensibilité. Je sais pas, moi, il y a des tas de choses qui font que. Et aujourd'hui, enfin, moi, ce que je constate, c'est que tout le monde est écolo, quoi, parce que on a éclaté. On a éclaté cette vision écologie. Et soit on les fait passer pour des doudingues et des emmerdeurs, soit on a notre programme écologique, mais nous aussi on est écologique. Je veux dire, quand on entend le Macron qui. Enfin, les ministres qui disent mais nous on fait de l'écologie, enfin c'est.
Bon, enfin, il n'y a pas tellement de mesures, hein. Il n'y a pas tellement de mesures.
Il n'y a rien du tout.
Il n'y a rien du tout, oui. Donc alors. Donc ouais, tu dis vite, quoi.
Oui. Ce qu'ils font, c'est.
Non, mais être agriculteur et être écologique, c'est pas tout à fait pareil. Moi, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas agriculteur. En fait, le problème, c'est peut-être que c'est la solitude qui a été évoquée, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, la dernière génération. Alors, moi, je fais un peu exception parce que mon père est encore paysan. Mais déjà, pour moi, c'était une anomalie. Je veux dire, les gens avec qui je suis n'avaient plus de parents paysans. C'était complètement has-been. Donc là, toi, tu parles de ton grand-père. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi, on arrive à une génération qui n'a plus d'attache. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va plus en vacances chez ses grands-parents, qui a une poule, une vache, je sais pas, en fait, qui juste ne voit pas ce que c'est, qui fantasme ce que c'est et qui n'arrive pas bien à comprendre les problèmes qui se posent, en fait, à un agriculteur tout seul, avec son tracteur, dans une ferme aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, la solitude, elle est vraiment au-delà du terrible, hein. Et ça, c'est arrivé en 20 ans. Parce que chez nous, dans le village de Moyen, il y avait encore une laiterie. Quand j'étais petite, avec des gens qui livraient, genre, c'était. Alors, un paysan, il avait deux petits trucs, tu vois, sa petite charrette. Le gros, il en avait 7. Mais bon, tout le monde allait au même endroit. Ouais. Et puis, en fait, c'était un endroit où on se croise. Les machines, c'est pareil, elles étaient communalisées. Je veux dire, personne n'avait. Chacun avait son. Le tracteur, si, quand même, mais je veux dire, la moissonneuse-batteuse, c'était à tour de rôle. On s'organise, on se la prête. Ouais. Maintenant, en fait, plus personne passe la moissonneuse-batteuse. En fait, c'est un sous-traitant qui vient jamais le jour en fait, où il faut pour faire la récolte. Parce qu'en fait, il y a un sous-traitant qui fait tous les champs de tous les paysans. Il n'y a même plus le matériel. En fait, le matériel, il est loué quoi, pour pouvoir faire les récoltes. Et du coup, en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de disjonction totale, en fait, entre ce qu'on projette sur cette profession et sur, je sais pas, sur, ça, c'est pas du tout pour minimiser, en fait, toutes ces initiatives, parce que moi aussi, je crois qu'elles sont signifiantes, et que, en fait, au final, hein, ça va avoir un impact, mais moi je pense qu'il y avait la question de foncière, la question de la formation des lycées agricoles, mais moi je pense, en fait, moi, comment je le ressens, c'est plutôt la question du travail, en fait. C'est-à-dire que si on veut passer massivement à une agriculture plus respectueuse, et tous ces agriculteurs, en fait, qui ont dû s'adapter, qui ont dû se mécaniser, qui n'ont pas fait ce choix forcément du bio et qui ont fait de l'agriculture conventionnelle, ils savent encore comment on fait avant, comment on faisait avant, etc. Donc, mais à un moment donné, en fait, ils n'avaient plus ni la main-d'œuvre, ni le personnel gratuit, ni les enfants, ni les femmes qui n'étaient pas rémunérés pour travailler. Je veux dire, en fait, il y a eu un gros problème de disponibilité, de force de travail, en fait, pour faire tout un tas de choses qui prennent beaucoup plus de temps. J'ai demandé à mon père les pesticides, j'ai dit, tu te rappelles, avant vous n'aviez pas de pesticides, vous deviez bien avoir un moyen, en fait, de régler votre problème d'espèces invasives. Mais en fait, c'était très simple. Ces gens rentraient dans les champs du matin au soir avec une lunette, et puis en fait, c'est mécanique. Quoi. Oui. Et ça, c'est trois personnes. Oui. Donc, du coup, il y a aussi cette espèce de... Enfin, il y a plein d'angles morts, je trouve, aujourd'hui, qui fait qu'on a... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de hiatus sur ces questions-là.
En même temps, il y a pas mal de jeunes qui s'installent aussi... mettre en place des tas d'expériences comme ça.
Ah, carrément, hein. Je dis pas le contraire.
Mais je suis d'accord.
Je pense que le fait de reformer une culture en se disant finalement à partir de 1850, il y a effectivement un exode urbain qui a été vu comme étant un destin inexorable de l'humanité, mais qui en fait... c'est pas du tout évident, en fait. Hein. On voit bien que la démographie, c'est aussi inversé. C'est-à-dire qu'il y a aussi des nouvelles personnes qui s'installent et qu'en fait, le déclin démographique des campagnes n'est plus... est un processus qui est achevé, en fait. Hein, et que maintenant, en fait, il y a des mouvements qui sont en retour. Tout ça, c'est des questions qui sont importantes. Après, par rapport aux questions dont on parle, il faut bien imaginer que c'est des questions qui sont quasiment séculaires. Je pense que ce dont on parle là, en fait, moi je pense que c'est des processus qui vont être très lents. Parce que, en fait, on est dans des systèmes qui sont construits sur des décennies et des décennies. C'est des processus très lents. Donc, c'est pour ça que c'est aussi difficile à concevoir. Ça ne va pas se faire comme ça, ça c'est sûr. Ces tournants-là, de toute façon, pour moi, ils ont été ratés. Donc, ça va être un processus lent, surtout le 21e siècle, où du fait des tensions sur l'énergie, des tensions sur les conditions de vie, des pressions qu'il va y avoir sur les villes, etc., etc., font que, en fait, je pense qu'il va y avoir en fait des requalifications des organisations sociales.
En même temps, on voit bien que l'idée que les gens retourneraient à la campagne ou s'installeraient, ça pose d'autres problèmes. Aujourd'hui, enfin, je sais pas, les gilets jaunes, c'est ça, quoi. C'est des mecs, ils n'ont plus de poste, ils n'ont plus de... médecin, ça coûte cher, tout est à distance, il faut toujours avoir une bagnole, il pète un câble. Donc on voit bien que c'est compliqué de retourner vivre à la campagne. C'est pas donné à tout le monde. Je sais pas, ça c'est encore peut-être d'un point de vue de citadin.
Il y a aussi des connexions entre le monde urbain et le monde, c'est ce que Marie disait, le monde agricole. Enfin, moi, je le vois très bien au même sens de mon AMAP. Il y a des choses qui me semblent consternant à être dissonant. D'une part, il y en a très peu qui vont au chantier participatif, et ceux qui vont au chantier participatif, j'ai l'impression qu'ils découvrent la vie, quoi. Et puis, alors moi, ça, c'est mon point de vue strictement professionnel, personnel. Je suis d'accord qu'il faut réduire la consommation de viande et tout, ça c'est un autre débat, mais je trouve que les véganes et les végétariens sont complètement déconnectés. Ils se disent écologistes, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et l'agriculture paysanne biologique, pour moi, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, et criminaliser les éleveurs, à un moment donné, ça va bien, quoi. Heureusement, cette proportion-là qu'il y a dans mon AMAP ne fait pas de prosélytisme, parce que sinon je stopperais direct la chose. Mais je trouve qu'il y a quand même des connexions. Je ne suis pas contre
les véganes urbains.
Je suis contre la souffrance animale, etc. Les vidéos qu'on voit sur L214 sont scandaleuses, etc. Mais il y a des éleveurs qui sont en pèlerinerie à échelle très humaine, en fait, ne maltraitent pas leurs bêtes. Il y a des abattoirs qui ne maltraitent pas leurs bêtes. Il faut arrêter avec ça. Je trouve qu'il y a quand même une déconnexion quand même entre les urbains vegan et l'agriculture paysanne. Par contre, moi, ça me choque de plus en plus.
Il y a une petite souris qui se balade.
Ah oui.
Donc voilà, donc ça c'est.
J'ai une question, une réflexion qui est dénuée des conséquences qu'elle pourrait avoir. En 10 ans, on a observé en 10-15 ans, je pense notamment à un univers très précis qui est celui de la bière.
Comment ?
Celui de la bière. Ouais. L'exemple de la bière qui est indéniable. En 10-15 ans, on est passé de 3-4 marques de bière dominantes, très industrielles, très concentrées, à une pluralité incroyable de marques. Alors, je pense que c'est une marque où on a plein de microbrasseries. Alors, je n'ai pas non plus la conscience des effets derrière la concentration éventuelle, l'acquisition des rachats, etc. Je pense qu'on a été très agressifs. Mais malgré tout, chaque village, chaque ville, chaque quartier de Paris a sa brasserie, sa microbrasserie, avec des procédés a priori louables, et qui ont réussi à imprimer des marques. On n'a pas de marque de carotte, on n'a pas de marque de lait forte qui revendique des procédés, mais une relocalisation. Est-ce que c'est une piste de travailler sur une marque en prenant le système à son propre jeu? Est-ce que c'est un système de marque de marketing? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, dans cette redynamisation culturelle sur les codes et sur les systèmes d'appropriation, travailler sur des marques un peu plus fortes, comme on a pu observer dans le domaine de la bière? C'est une pure réflexion.
Dans le domaine du lait, tu peux acheter des briques de lait alors je sais plus quoi le nom c'est, où tu es sûr que 80% est reversé à l'agriculteur, enfin 20%, je sais plus. Ça s'appelle. Alors à Paris, on ne les trouve pas. Mais en province, on les trouve. Si par contre, on trouve des œufs ou des trucs comme ça qui reverse un certain pourcentage, enfin qui assure un pourcentage.
En tout cas, la question sous-jacente derrière, c'est quel a été le mécanisme qui a fait qu'on est passé de 4 marques de bière à 660. Et que chacun peut exister avec ses...
C'est le mythe de la bière.
En fait, cette question des bières, où il y avait, mettons, une brasserie pour 4 ou 5 villages, c'était en fait des situations qu'il y avait au 19e siècle. Donc en fait, c'est la question de la vision linéaire, en fait, de l'évolution des systèmes qu'il faut remettre d'abord en question. C'est-à-dire qu'en fait, les choses peuvent bouger. Donc après, bien sûr qu'il y a une requalification. Finalement, sur les fromages, se sont maintenus, en fait, comme les bières. Il y a une très forte différenciation, bien au-delà de celle qui marche avec les marques. Les marques, c'est une partie du marché, mais en fait, quand tu prends les fromages, t'as une diversité... selon les producteurs. Nous, on voit, en tout cas, sur le marché où on va, il y a peut-être 5 ou 6 producteurs de fromage, ils sont tous différents. Donc, en fait, c'est une différenciation énorme. Tu pourrais avoir la même chose, effectivement, sur les laits. Donc, effectivement, ça, moi, je crois que c'est vraiment des choses qui sont appelées à se redéployer. Parce qu'en fait, si on prend l'exemple des laits, comme le montre très bien un article de... Élise de Melenay, en fait, sur le fait que c'est aussi passé par des lois où il y a eu une valorisation des laits pauvres qui ont été mieux payés que des laits riches, en fait. Donc il y a des luttes légales, en fait, qui doivent aussi recréer, en fait, du champ de possibilités. Donc je pense qu'effectivement il y a plusieurs terrains qui sont imbriqués, mais qui à mon avis vont réémerger. J'étais cet après-midi dans une discussion sur l'INRAE avec les questions des microbiotes. C'est des choses qui, à mon avis, il y a des choses qui vont réémerger. Ça va prendre un peu de temps. Je pense que ça peut prendre 10-15 ans. Mais je pense qu'avec les tensions qu'il va y avoir sur la santé, à mon avis, c'est des choses qui vont réémerger. Mais à voir.
Sur la lutte contre les produits transformés, par exemple, on sait qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire nous-mêmes pour un moindre coût et qui sont. Alors que bon, nous faire croire que c'est compliqué et que c'est plein de ce qu'on va faire, c'est pas bon. Donc ça aussi c'est un problème. Il y a des tas de gens qui achètent des trucs complètement plein de flotte.
Et c'est pareil, il faudrait supprimer la haute valeur environnementale. Ça fait beaucoup de tort au label agriculture biologique. Mmh. C'est encore une psycho-environnementale. Mmh. Pour faire plaisir au lobby de la FNSE. Ils ne demandent pas grand-chose. Hein. La production justement de viande en conservation des sols et agriculture biologique.
C'est
la démarche de certification juste pour savoir ce que ça donnait. Enfin, c'est vraiment aucun contrôle, enfin, rien du tout, aucune exigence.
Et est-ce que vous vous êtes heurté à des oppositions, je ne sais pas, des
locales,
problèmes?
Ah bah oui, parce que bah nous. Ça fait 15 ans là, qu'on est à peu près dans cette zone-là. Donc nous, on est en territoire bourbonnais. Donc territoire bourbonnais, c'est encore un territoire communiste paysan. Donc voilà, on a mis du temps quand même à descendre dans le territoire, en fait, à rencontrer. Là maintenant, on descend vraiment dans le territoire. On commence à connaître bien comment ça fonctionne vraiment dans le territoire, au niveau des pouvoirs locaux, et ça, en fait, c'est un peu un choc aussi, je trouve, quand on vient de la ville, quoi, de prendre conscience de ça, que finalement, la situation locale, elle est, même s'il y a plein d'arrivants, etc., t'as quand même toujours une situation locale qui prime, mais qui verrouille, quoi. Qui verrouille tous ces arrivants qui arrivent, qui essayent de faire des choses. Tu as ce socle local là qu'il faut arriver à percer.
Parce que
quoi.
Les communistes, ce n'est pas forcément des progressistes. Hein. Aussi,
hein. Je sais pas. Oui, ben voilà, oui. Mais je pense que c'est indépendamment même des partis. C'est cette couche très, très local qui a du mal en fait à accueillir l'autre quoi aussi.
C'est la question des Nima en fait. J'étais
une
conférence assez intéressante sur la question de la transmission. Et dans l'assemblée, il y avait peut-être 70 personnes, il y avait 60 paysans et 10 élus. Et donc c'était sur les freins socio-psychologiques à la transmission des fermes. Et grosso modo, la femme, là, parlait des NIMA, des non-issus du milieu agricole. Et ce qui était vraiment impressionnant, parce qu'on avait été en discussion avec des personnes de la Comcom, et où il y avait vraiment... En fait, il y a des vrais verrous, en fait, hein, sur les nouveaux arrivants. En fait, il y a vraiment un entre-soi, des personnes qui sont, je dirais, de plusieurs générations sur le territoire. Et là, en fait, ça portait sur le fait que dans l'avenir de l'agriculture, ça ne sera pas des fils d'eux. C'est-à-dire qu'on sait bien que dans les lycées agricoles, en fait, ceux et celles qui s'installent sont dans les... sont des non-issus. Il y a une part très importante de non-issus du milieu agricole. Donc il y a un vrai problème de choc culturel, en fait. Où, en fait, les personnes qui sont du territoire... moi, je pense que c'était pour la première fois, c'était vraiment intéressant de constater, de voir qu'ils comprenaient, qu'ils devraient accepter des personnes qui ne sont pas comme eux et qui n'ont pas la même culture. Et on le voyait, même dans les regards des élus. C'est-à-dire, on voyait rentrer dans leur tête cette prise de conscience-là. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que et ça serait la même question que celle des migrants en agriculture, qui est évidemment assez hérétique, en fait, hein, qui, à mon avis, est indispensable, puisque de toute façon, ça existe déjà, à part que c'est les ouvriers exploités, qui pourraient être aussi des exploitants. Voilà, donc là, il y a une évolution à faire, mais en fait, qui va se faire par la force des choses. Les études montrent bien que, finalement, l'agriculture ne tiendrait pas, en fait, sans les migrants. Après, ça peut prendre des nouvelles formes, et ça peut aussi créer des nouveaux territoires. C'est quand une question de nouveaux territoires, de nouvelles cultures, c'est pas forcément seulement avec les Français.
Mais d'ailleurs, il y a un exemple en Italie, je ne sais pas si vous connaissez, le groupement Corto, à Paris, qui a une origine de 10 ans, qui fait venir des produits siciliens et italiens.
À Paris ?
Paris, oui.
D'accord, non.
Et ils travaillent avec des consortiums l'Italie. Mm-hmm. C'est un groupement d'agriculteurs, c'est une sorte de coopérative agricole en France. Mm-hmm. Ça s'appelle ça le consortium, parce qu'ils prennent tous leurs décisions horizontales entre producteurs pour leur fonctionnement, ouais, et pour leur mutualisation. Mm-hmm. Et il y a les Galli Felicini, qui c'est le producteur essentiellement d'agrumes, aussi de pâtes, qui disait effectivement, nous, notre agriculture ne tiendrait pas sans les migrants.
Ouais.
Il y a quand même une forte proportion de personnes migrantes.
Il y a un article là-dessus, effectivement, dans la Planète Laboratoire.
Sur une expérience.
Mais on pourrait parler, effectivement, de. Donc, c'est bien dans les agricultures de plantation, dans ce cas-là. Donc, il y a bien sûr le sud de l'Italie, la même chose en Espagne, la même chose en France, mais il y a la même chose au Danemark, en Hollande, hein, qui est un grand pays agricole, comme le Danemark, où là, c'est plutôt des personnes de Pologne, de Hongrie, etc. Des Bulgares, des. Donc en fait, ça c'est clair qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, il y a vraiment une transformation de l'Europe par le bas qui est invisibilisée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a les partis fascistes qui passent que ça sera modifié. Parce qu'en fait, c'est les réalités agricoles dont on dépend.
Dernière question, puis après on passera au mode repas informel,
ouais,
tout
oui.
Ça.
Mais il y a aussi ce collectif Reprise de Terre, là, non, qui travaille sur les, justement autour des villes, etc., qui essaye de protéger les terres agricoles de la.
Ça, c'est sur les questions de, ouais, des enjeux fonciers,
ouais,
et les nouveaux outils fonciers. Il y a un vrai enjeu, en fait. À créer des collectifs d'acquisition foncière et à développer en fait des nouvelles politiques foncières. Je pense que c'est une question très importante.
Sur les forêts aussi.
Aussi sur les forêts.
Sur les forêts aussi, tout à fait.
Qui empêche les chasseurs. Après, est-ce que. Je ne suis pas du tout proche à ça, mais voilà, une forêt, ça s'entretient aussi. Je veux dire, si un urbain achète une forêt et qu'il ne fout jamais les pieds, au bout d'un moment, ça va poser des problèmes. Parce que les forêts sont artificielles. Enfin, et on le voit, quoi, sur ne serait-ce que sur les sécheresses éventuelles.
Mm-hmm. Après, c'est pas parce que tu es propriétaire que tu es gestionnaire. Tu vois, ça peut être deux rôles différents.
Et vous avez des exemples d'endroits où, enfin, justement, parce qu'on parle de beaucoup d'expériences hyper intéressantes et tout, mais j'ai besoin d'un exemple de moment où ça c'est pour vous, vous êtes dit, oh, tiens, c'est génial ce qui se passe là, ou qui aura des expériences qui auraient allié des chercheurs, des chercheurs, chercheuses, artistes, paysans, paysannes, je sais pas, une expérience qui vous a marqué.
Pour aller voir, ou sinon on a rencontré des expériences comme ça assez.
Ouais.
Mais sur le plateau, après, il y a nous, les situations dans lesquelles on est, il y a des choses qui se passent de cet ordre-là. Avec les réseaux sur lesquels on est, sur Carmini, c'est le cas aussi, en fait. Hein, c'est des lieux qui sont fertiles. Il y a du passage. Je pense que c'est des endroits où s'expérimentent, en fait, des formes de culture, en fait, avec toutes les limites que ça a. Mais en fait, il faut accepter. Ça, c'est le premier truc, c'est d'accepter qu'on n'est pas tout puissant, en fait, qu'on a une capacité d'action qui est limitée et que, en fait, voilà, c'est faut assumer ça. Il faut assumer ça, quoi.
Non, mais c'est que cette question de l'artiste en milieu rural, ça me touche beaucoup. Et en fait, je cherche un peu à voir, en fait, un peu des références de gens, de voir dans des travaux de gens qui arrivent à s'inclure, en fait, dans des. Dans ce milieu de l'agriculture.
Il y a un artiste, alors son nom m'échappe, je le suis, où je le retrouve, qui est fils agriculteur, qui fait tout son travail sur ça.
Ok.
Mais je crois qu'il y a d'abord, effectivement, je crois que la question de faire des choix d'existence, pour moi, ça, c'est la première forme artistique, quoi. Oui, ça, c'est la première forme artistique.
Si tu es musicien, je t'emmène à la forme de Combreux.
Forme de Combreux,
ok, je vois. Ils font des concerts pour les premiers samedis du mois dans la grange.
Okay.
Et un peu de gens qui fait des
Et bien, super, on va vous remercier là, pour l'intervention. Puis, tout le monde
on peut continuer de discuter.
Puis voilà, merci en tout cas.
Merci.